With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News. 24 heures qui ont peut-être changé la tournure de la guerre en Ukraine. Difficile de prévoir ce qui va arriver. On va donc s'attacher à comprendre ce qui se passe vraiment. La Russie de Poutine est-elle vraiment affaiblie économiquement, en recul militairement, fragile politiquement? Qu'en est-il réellement? Le grand reporter Régis Le Sommier était sur le terrain en Ukraine et en Russie. Il nous racontera ce qu'il a vu. L'école version Papendiaï, priorité à la lutte contre les inégalités, priorité à la lutte contre les stéréotypes du genre. Mais qu'en est-il de la lutte contre l'islamisme? Qu'en est-il du soutien aux professeurs? Didier Lemaire, ce professeur de philosophie à Trappes, qui a dû tout abandonner, tire de nouveau la sonnette d'alarme, vous l'entendrez. Les éoliennes, stop ou encore? Emmanuel Macron va inaugurer la première éolienne en mer française. Le parc éolien en mer construit au large de Saint-Nazaire par EDF entrera en service en fin d'année. D'autres parcs doivent suivre et marquer une accélération de la filière en France après 10 ans de traversée du désert. Alors nécessaire ou bien nos paysages sont-ils défigurés? Bref, solution ou pollution? Vous avez sûrement un avis bien tranché, on va en parler. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous Olivier.
Bonjour chère Sonia, bonjour à tous et on va démarrer avec le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine qui est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur, c'était en 2014, il a été tué par le père de sa petite amie. Noémie Schulz, vous êtes en direct du tribunal de Beauvais et la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle est requis contre lui.
Oui, je n'ai pas trouvé de raison de requérir autre chose que la peine maximale. 30 ans de prison, c'est par ces mots que l'avocat général a clos sa démonstration. Pendant une heure, il est revenu méthodiquement sur les faits. D'abord, l'horreur de la scène de crime qui a choqué les policiers les plus aguerris. Le déchaînement de violence et 19 coups de couteau au thorax, au poumon, sur le crâne qui ont signé la volonté de tuer de Muhittin Ulug. L'avocat général s'est ensuite interrogé sur les raisons de ce crime, balayant les explications peu crédibles. Crédible que l'accusé a continué d'avancer pendant le procès. La seule raison, c'est la découverte de sa fille nue avec un jeune homme. Muhittin Ulug a dit avoir perdu la raison, mais les experts ont dit que son discernement n'a jamais été aboli, rappelle le magistrat. Avant de s'attarder sur la question du poids de la tradition, de l'héritage culturel chez cet homme d'origine kurde, il n'y a aucune fatalité, aucune raison que les Kurdes restent arc-boutés sur des traditions ancestrales. Personne n'a forcé Muhittin Ulug à porter 19 coups de couteau à Julien Videlaine. Comprendre, c'est la faute d'un seul homme, ça n'est le crime que d'un seul homme, et il a causé un trouble à l'ordre social, exposant sa communauté à des actes inacceptables. L'avocat général a bien sûr évoqué les victimes, Julien Videlaine, fauché à 20 ans, mais aussi Nesrine, la propre fille de l'accusé qui vit un calvaire depuis 8 ans. Les mots sont sévères, enfin, pour évoquer la cavale en Turquie pendant 4 ans. Un homme qui se sera montré lâche jusqu'au bout. Dans le box, l'accusé se tasse. Quelques minutes après le réquisitoire, il pleure pour la première fois.
Merci Noémie Schulz, en direct de la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Après l'escalade annoncée par Moscou, l'Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre la Russie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé aujourd'hui que les 27 allaient notamment augmenter leur aide militaire à l'Ukraine avec de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. On écoute Josep Borrell.
Des mesures restrictives supplémentaires seront proposées immédiatement, dès que possible, en coordination avec nos partenaires. Nous continuerons à soutenir les efforts ukrainiens d'approvisionnement en équipement militaire aussi longtemps qu'il le faudra.
Et puis 55 militaires russes de retour dans leur pays après le plus important échange de prisonniers avec Kiev depuis le début de l'offensive en Ukraine. Hier soir, l'Ukraine qui annonçait la libération de 215 personnes. Juste avant, je vous le rappelle, Vladimir Poutine avait déclaré la mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive. Et puis dans ce contexte de guerre en Ukraine, de crise de l'énergie, eh bien Emmanuel Macron au large de Saint-Nazaire aujourd'hui pour inaugurer le tout premier parc éolien en mer. C'est le début du chemin, une première étape vers le développement massif des énergies renouvelables. C'est ce que promet l'Élysée. Le chef de l'État qui doit s'exprimer sur les énergies renouvelables justement en début d'après-midi. Gérald Darmanin, lui, à Annecy pour le 3e congrès national de la sécurité privée. Le ministre de l'Intérieur entend rappeler les personnes au chômage qui ont une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, et cela dans le but de renforcer les effectifs pour les prochains JO. On l'écoute.
Je veux d'ailleurs dire que j'ai demandé au préfet d'Île-de-France, particulièrement touché par l'organisation des Jeux Olympiques et de la Coupe du monde de rugby, mais bientôt à tous les préfets de la République, avec leurs collègues de Pôle emploi, d'appeler l'intégralité, soit des personnes qui avaient une carte professionnelle de sécurité privée, puisque les chiffres qu'il y a sur ma possession, c'est que 50% de ceux qui ont une carte de sécurité ne sont pas dans vos entreprises, et une grande partie d'entre eux sont quand même au chômage. Donc il y a là sans doute assez rapidement un certain nombre de personnes que nous pouvons convaincre de revenir vers le travail.
Allez, place au débat tout de suite avec vous Sonia Mabrouk et vos invités.
Merci Olivier. 24 heures qui ont peut-être changé la tournure de la guerre en Ukraine. Je vous le disais, difficile de prévoir ce qui va se passer. Alors on va se contenter ou plutôt s'attacher à comprendre ce qui se passe vraiment. La Russie de Poutine est-elle vraiment affaiblie économiquement, en recul militairement, fragile politiquement? Nous allons en parler avec nos invités, l'essayiste et président de Souverain Demain, Paul Melun. Bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Et merci d'être là. Michel Taupe, fondateur d'Opinion Internationale.
Bonjour.
Bienvenue à vous Michel. Merci. Avec nous Caroline Pilastre, bienvenue et bonjour. Bonjour Sonia, chroniqueuse bonjour. À Sud Radio et le grand reporter Régis Le Sommier. Bonjour à vous
bonjour,
Régis.
Sonia.
Vous avez passé Régis 3 semaines de Kherson à Donetsk en passant par Zaporijja. Vous avez eu accès au front de Novo, de Kakhovka, de Nikolaïev, de Vassilevka, du Donbass. Vous nous aviez raconté, ça vous le direz tout à l'heure, évidemment à l'antenne pour nos téléspectateurs, que vous avez passé des heures et des heures parfois dans un train. C'était entre Rostov et Moscou. Vous avez pu discuter véritablement, avoir des discussions nourries avec, je veux dire, différents citoyens, hein, évidemment, que l'on peut croiser dans un train. Une première question. L'armée russe connaît des difficultés, c'est une réalité. Mais j'ai beaucoup entendu le mot de déroute. Est-ce que l'armée russe est en déroute?
Alors, moi, je vais revenir un peu sur le début de ce périple. En fait, on est rentré dans l'oblast de Kherson. Donc... là où où va se tenir un référendum, et je vais revenir un petit peu sur la façon dont le référendum est perçu là-bas. Pour ce qui est de l'aspect militaire, ce qui a beaucoup joué, on l'a remarqué tout de suite en remontant vers le nord, donc vers cette ville de Kherson qui est dont le pont a été le pont Antonievski qui menait la berge sud du Dniepr à la ville de Kherson a été rendu inutilisable. Donc aujourd'hui il y a des barges qui ont été installées par le génie militaire russe pour faire transiter les marchandises, et la ville continue à être alimentée. Il y a eu un changement sur le champ de bataille qui a été l'utilisation, je dirais, de façon efficace maintenant par l'armée ukrainienne de nouvelles armes, et notamment en particulier des missiles HIMARS, qui sont des missiles à guidée satellitaire et qui ont notamment rendu inutilisable ce pont, mais qui aussi peuvent être utilisés pour cibler des individus, des pro-russes, des dirigeants pro-russes, qui peuvent être utilisés aussi contre des dépôts de munitions. Par exemple, les HIMARS, depuis qu'ils ont été introduits fin juin, je donne des chiffres très concrets et qui sont, admis du bout des lèvres par les autorités russes. Hein, j'ai eu l'occasion de leur en parler. La moitié des dépôts de munitions de l'armée russe ont été anéantis par les HIMARS. La moitié. Donc, si vous voulez, là, on est dans une course où la technologie a redonné un avantage aux Ukrainiens. C'est pas nécessairement
la technologie américaine
occidentale dans l'utilisation des armes. Il n'y a pas que ces missiles-là, il y a aussi des missiles qui permettent de neutraliser ce qu'on appelle les radars de défense antiaérienne, qui sont très efficaces, mais qui normalement, quand on les éteint, ne sont plus détectables. Ces nouveaux missiles américains sont capables de viser une batterie de défense même quand le radar est éteint. Donc si vous voulez, ça c'est des avantages qui ont changé substantiellement la donne sur le champ de bataille. Ça ne veut pas dire que l'initiative de l'armée ukrainienne telle qu'elle a pu être développée du côté de Kharkiv n'a pas été remarquable. C'est vrai que les lignes russes ont été enfoncées. L'offensive, elle était prévisible depuis le 20 août. On savait, donc il y a eu des défauts dans l'état-major russe de prise au sérieux de cette offensive du côté de Kharkiv, donc à l'est. Et je précise, ce qui est important, c'est que les Ukrainiens, en fait, ont fait une des vieilles techniques de guerre, qui est tout simplement de dire, on va attaquer au sud, on va attaquer à Kherson. Ils ont attaqué à Kherson, en effet, mais ils ont porté leur effort maximal du côté de Kharkiv, et là, ils ont forcé les Russes à reculer. Pour revenir à votre question initiale de dire, l'armée russe est en déroute. Non, l'armée russe n'est pas en déroute. L'armée russe a subi, en effet, ce problème technologique, ce problème dans les missiles de moyenne portée, filo-guidés, où elle n'est pas très efficace. En revanche, il lui reste un potentiel considérable en termes de matériel et de quantité de matériel. C'est-à-dire que les grades font encore des ravages sur les troupes ukrainiennes. C'est des vieux missiles portés par les orgues de Staline. La puissance de feu russe, elle est encore là. L'armée russe, elle est consciente de ses difficultés. Mais nous, on a passé du temps avec des Cosaques sur le front du Donbass. Là, je peux vous raconter un petit peu leur état d'esprit, si vous voulez. Maintenant, on va peut passer
faire.
À d'autres.
Et on a envie de comprendre, voilà. Régis Le Sommier, parce que vous allez nous expliquer à la fois à nos téléspectateurs et à nous-mêmes comment ça se passe sur le terrain, avec qui vous prenez contact, parce que très concrètement, vous dormez, c'est le métier de grand reporter, parce qu'il y a une autre vision aujourd'hui, non pas qu'elle s'entrechoque avec la vôtre, mais c'est une autre vision du terrain. Elle a été portée notamment par Bernard-Henri Lévy, qui était ici même sur CNews hier. Et lui, voici ce qu'il dit de la réalité de ce qu'il a vu et de la manière dont il qualifie Poutine. Écoutons-le.
C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il a perdu, ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter.
Là, si on écoute Bernard-Henri Lévy, le coup près est tombé. Il a perdu. C'est un constat. Alors, il était sur le terrain, il était...
Non, vous savez, quand vous allez... Non,
allez-y, juste une seconde, j'arrive.
Quand vous êtes sur le terrain, la question, vous passez du temps sur le terrain. Moi j'ai passé 3 semaines. Quand je vous parle de la ville de Kherson, par exemple, j'ai dormi dans un hôtel. C'était le dernier hôtel de la ville de Kherson. Vous avez des explosions la nuit. Vous avez des explosions qui se rapprochent. Parfois, quand vous dormez, dans ces circonstances-là, vous vous dites, est-ce que je m'endors au risque qu'il y ait un obus qui tombe sur mon hôtel? Ou est-ce que je reste éveillé, vigilant, pour essayer de me planquer? C'est ça, notre vie. Et je rappelle que cet hôtel, j'ai découvert au matin qu'en fait, cet hôtel, s'il était resté ouvert, c'est pas pour le but, normalement tous les hôtels sont fermés à Kherson, c'est parce que c'était le seul point d'eau, d'approvisionnement en eau dans le quartier. C'est-à-dire que tous les matins, il y avait des petits vieux, il y a énormément de personnes âgées qui n'ont pas pu quitter ces zones-là. À Mariupol, pareil, j'ai rencontré des petites vieilles qui dorment dans leur cave et qui passent leur journée devant les ruines de leur maison. Il y a 6 mois que Mariupol a été détruite. Donc, si vous voulez, la guerre, nous, on la vit de cette façon. On ne la vit pas de façon à dire « Poutine est un terroriste d'État ». Moi, mon métier, c'est ça. Je ne sais pas quel est le métier de M. Bernard-Henri Lévy, mais moi, mon métier, c'est d'aller sur le terrain, de raconter la réalité de Kherson, de raconter la réalité de la résistance, par exemple, à Kherson. Quand il dit « Poutine a perdu la guerre », en effet, les dirigeants pro-russes sont visés. Ceux qu'on a rencontrés, on a discuté d'ailleurs avec la rectrice de l'université de Kherson, qui a été visée par un attentat 2 jours après, qui est grièvement blessée. Il y a une bombe chez elle quand elle est rentrée chez elle le soir. Donc voilà, quand on est là-bas, on a des plaques russes parce qu'on est venu de Moscou. On est obligé de mettre du scotch sur nos plaques russes parce que avoir une plaque russe à Kherson, c'est risquer de se prendre une bombe sous la voiture. Donc voilà la réalité. Alors peut-être que Monsieur Bernard-Henri Lévy ne voit pas cette réalité. Je pense que il existe aussi des choses intéressantes à puiser chez les militaires ukrainiens, mais laisser chacun faire son métier. Il y a des reporters qui sont capables de nous dire ce qui se passe côté ukrainien. Moi, mon but aujourd'hui, voilà, j'étais côté russe, je vous raconte que c'est. Maintenant, j'ai pas de spéculation à savoir.
Mais
je ne
presse
pas.
Vous nous dites, voilà. Il y a une contre-offensive, on va dire, américano-ukrainienne. Ça n'enlève rien au courage des Ukrainiens. Il y a une technologie occidentale et américaine qui est réelle, qui a engendré un recul de l'armée russe, mais ce n'est pas encore une défaite, ce n'est pas encore un Poutine acculé, alors que Bernard-Henri Lévy, qui était sur le terrain ukrainien, nous dit « c'est fini, moi j'étais et j'ai vu ce qui est en train de se passer, ils sont aux abois et il est terminé ».
Oui. Michel, moi j'aimerais dire deux choses. D'abord, alors c'est difficile devant la personne, mais saluer le fait qu'il y a encore en France des grands reporters de guerre qui passent des semaines sur le terrain pour justement témoigner de la réalité de la guerre. Donc ça, j'aimerais le saluer. Et j'ai envie de dire, je trouve que c'est plus important que d'avoir un intellectuel qui se déplace en jet privé, en aller-retour, pour aller témoigner et poser en photo.
Quand il sera face à vous, vous débattrez. Je préfère que la personne soit là.
Donc moi, je peux le dire, et je dis en termes de témoignage de guerre, je pense que c'est important, parce qu'en plus, cette guerre-ci, c'est peut-être la guerre qui, on a plus d'images réelles et de témoignages vécus, comme on n'en a peut-être jamais eu autant, avec des conflits plus anciens, où c'était plus difficile d'avoir, de savoir exactement ce qui se passe. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que voilà, Bernard-Henri Lévy n'est pas un reporter de guerre, c'est un conseiller du prince qui est à l'oreille des puissants et qui...
Michel, moi je veux savoir quelle est la réalité du terrain. Vous avez un intellectuel qui va et qui revient et qui dit « Poutine a perdu, il a perdu ». Et vous avez Régis Sommier, grand porteur, qui nous dit voilà la réalité nuancée de ce qui se passe.
Régis Sommier ne dit pas, je passe sous votre contrôle, que Vladimir Poutine a gagné ou que Vladimir Poutine est en train de gagner. Là, ça, c'est autre chose. Et alors, d'un point de vue géopolitique, moi, effectivement, mon analyse est de dire plutôt que, effectivement, Poutine est aux abois et qu'en quelques jours, l'accélération du référendum, des référendums dans l'Est de l'Ukraine, avec la mobilisation partielle de 300 000 ou plus réservistes, tout ça fait un petit peu panique
mais
à bord.
Question,
voilà, donc
Michel,
moi, je pense plutôt qu'il y a une fragilisation.
Bien entendu, mais entre ce qu'on a envie, nous, de voir, et ce qu'on a envie qu'il se passe, et la réalité du terrain, et jusqu'où ça va nous emmener, Paul Melun, comment aujourd'hui, véritablement, parce que c'est vrai, entre la réalité du terrain bien sur sûr. Place, la complexité des choses, militairement, politiquement, économiquement, on va en parler.
Il faut que je parle des gens aussi.
Bien sûr.
Terrain, ce qui
vous allez
mais il faut rester
Paul.
Très humble.
Mais je crois qu'il y a, c'est très difficile d'avoir une vue objective, pour le moins, si on peut utiliser ce mot-là, de l'état du conflit à un instant T. Je pense qu'il y a plusieurs sources qui peuvent nous orienter. Votre témoignage, vos remontées du terrain, ce que vous pouvez nous dire, c'est très précieux. Parce qu'on a besoin d'avoir ces informations-là. De la même manière, ce que peut dire M. Bernard-Henri Lévy aussi, d'une certaine façon, puisqu'il est allé sur place. Donc, a priori, moi, je veux bien l'écouter. En revanche, il y a un autre levier qui peut nous permettre de comprendre et de réfléchir à une analyse sur l'affaiblissement potentiel de Vladimir Poutine, c'est l'état des relations internationales. C'est d'observer les déclarations des grands chefs d'État de ce monde. Et là, à tout le moins, il y a quand même un peu un changement de braquet. Lorsqu'on voit les déclarations récentes du Premier ministre indien, M. Modi, qui nous dit qu'il ne veut pas de cette guerre. Quand on voit les déclarations de Xi Jinping qui appelle à un cessez-le-feu. Alors il avait déjà appelé à un cessez-le-feu il y a quelques mois. Enfin là, il choisit bien son moment alors qu'il y avait eu quand même une alliance scellée assez importante entre lui et Vladimir Poutine. Donc ça, ce sont des signaux qui sont intéressants. Erdogan aussi, le président Erdogan, qui dit qu'il va y avoir une sortie de conflit. Donc, et là, ce ne sont pas des leaders occidentaux. Donc je trouve qu'il est intéressant d'écouter ce type de déclarations-là. Plus encore que celle, si vous voulez, parfois un peu belliciste à mon goût, d'une partie de l'Union européenne ou de Joe Biden qui remettent de l'huile sur le feu, alors même que là, il y aurait peut-être un chemin pour enfin une sortie de conflit au plan géopolitique.
Alors non justement, mais... Caroline, je vous donne tout de suite la parole. Il n'est pas belliciste, il était ce matin sur Europe 1. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il tire la sonnette d'alarme pour que nous cessions de marcher, dit-il, comme des somnambules vers la guerre et même vers plus que la guerre, une guerre totale et définitive, dit-il. Henri Guénaud, on l'écoute et vous réagissez juste après.
Ça devient très très dangereux et donc il faut modérer, il faut se modérer et chercher une voie. Pour l'instant, personne, et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile, le plus dangereux, personne ne cherche une voie de sortie. Voilà, une voie
ni,
de sortie.
Ni Emmanuel Macron, ni Joe Biden,
personne,
évidemment.
Mais personne. Le jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés. Et en plus, il se répond, si vous voulez, le jusqu'au boutisme de l'un justifie jusqu'au boutisme de l'autre. Il nous conduit en terre inconnue, c'est parce que jusqu'au boutisme, c'est très bien, mais jusqu'où?
Est-ce que vous mettriez en parallèle ces deux jusqu'au boutisme? Parce que ça a été beaucoup critiqué, hein, ce que dit Henri Guénaud à l'instant.
Je suis totalement d'accord avec ces propos. De mon point de vue, il faut raison garder. Bien évidemment que contrairement à vous ou même à BHL, je ne suis pas grand reporter. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Et j'entends parfaitement vos propos que je ne me permettrai jamais de remettre en question. Parce que c'est facile, sachant que je suis assise sur un plateau chauffé, de donner mon opinion. Je ne suis pas allée sur le terrain. Oui, bien sûr, mais il y a la théorie, comme le disait Sonia, et la pratique. Donc c'est bien plus complexe que ça. Ce que je peux constater en tant que citoyenne non spécialiste de ce conflit à proprement parler, c'est que je trouve qu'on est dans une escalade verbale. Bien sûr que c'est aussi une guerre de communication. Que M. Poutine, sur certains aspects, joue la carte toujours du va-t-en-guerre, qui en même temps veut se faire victimiser, c'est quand même l'envahisseur. Ça n'est pas l'agressé, c'est l'agresseur. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien trouver des solutions pour ces populations et par extension pour nous tous, parce que nous vivons quelque part cette guerre, pas au sens propre du terme, et je souhaite que ça perdure ainsi, parce qu'imaginez, comme moi je le dis depuis le départ, si la frontière polonaise est ciblée, un missile tombe dessus, l'UE et l'OTAN rentrent en guerre. Donc c'est la troisième guerre mondiale nous concernant. Mais ce que je veux dire, pardon, c'est que je trouve dommageable les propos de certains qui montent en épingle ce conflit en n'arrêtant pas de stigmatiser et d'humilier M. Poutine, que je n'apprécie pas particulièrement, entendons-nous bien. Mais dernièrement, Mme von der Leyen a dit, je crois que c'était hier, sous prétexte que M. Poutine est acculé, il ne mettra pas ses menaces à exécution. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux de jouer avec le feu.
Généralement, c'est l'inverse. Oui, c'est plutôt la bête blessée qui réagit de manière irrationnelle, qui est la plus dangereuse. Je voudrais qu'on parle, Régis Smith, des personnes que vous avez rencontrées. D'ailleurs, sur le terrain ukrainien, comme en Russie, vous étiez. Et là, économiquement, vous allez nous dire des choses très, très intéressantes. Vous avez rencontré à la fois des agriculteurs, vous avez rencontré tout type de citoyens.
C'est-à-dire, quand on passe du temps, effectivement, on a le temps de parler aux gens. Je vais faire le distinguo. Je vais d'abord vous parler de l'Ukraine, enfin en tout cas de la partie occupée par la Russie, qui est un territoire. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent. Souvent, on a l'impression que c'est, quand on voit ça sur la carte, en fait, c'est gigantesque. C'est plus de 150 000 km² que la Russie a conquis en Ukraine, un pays de 600 000 km². Donc là, pour donner l'état de la récupération de territoire de l'Ukraine, c'est 6 000 km² à peu près. Donc vous voyez, il reste encore énormément. Et les Russes ont pris une bonne partie de cette Ukraine du Sud et de l'Est. Ce qui est très intéressant, c'est que sur la question des référendums, nous, quand on est arrivé, le référendum, il était prévu normalement le 11 septembre. Il a été décalé, nous ont dit les autorités russes, à cause, et la population aussi, mais la population était mécontente. Enfin, on a assisté à des scènes où la population était mécontente parce qu'elle n'avait pas le référendum, elle n'avait pas encore reçu ses passeports russes. Il y a des personnes qui ont, la Russie encourage à l'obtention de la nationalité. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, il y a une énorme nostalgie. Il faut voir que, par exemple, vous avez des villes comme Métilopol, Berdiansk, qui sont des villes encore très soviétiques. Vous avez, pourtant, c'était l'Ukraine. Vous avez encore tous les monuments, tous les monuments aux morts avec les étoiles rouges, des portraits de généraux soviétiques, de Lénine parfois. Et si vous voulez, ça, c'était quand même en Ukraine. Donc, quand aujourd'hui on dit oui, l'Ukraine, c'est Zelensky, c'est Kiev, c'est la modernité, etc. Non, dans ces coins-là, c'est des coins qui sont restés très soviétique dans l'âme, avec tous les problèmes et toute la vassalisation que ça induit vis-à-vis de la Russie, et le fait que beaucoup de gens vous disent « Ah, ça fait 30 ans que j'attendais ça, c'est... »
Vous l'avez entendu ?
J'ai entendu, oui, plusieurs fois.
Attendez, 30 ans qu'il attendait quoi ?
Le retour des Russes, voilà. Et ces gens-là nous le disent de façon... Parce que certains sont russes, la plupart sont russes. Si vous voulez, une partie de la population qui était pro-ukrainienne, elle, est partie. Donc aujourd'hui, il reste ces gens, il reste une population, il reste des jeunes, mais il y a aussi une population âgée. Vous savez pourquoi la population âgée, elle veut le référendum ? Pour toucher ses pensions. Oui. Parce que ses pensions, malheureusement, à l'époque de l'Ukraine, l'Ukraine était un pays pauvre, on l'oublie, un pays qui avait des problèmes justement pour pouvoir répondre aux besoins de toute sa population, et dans ces coins-là, parfois, les pensions n'arrivaient pas. Et les Russes aujourd'hui, ceux qui vivent, les Ukrainiens pro-russes qui vivent dans ces zones-là, pensent que avec le référendum, ça va être la Fédération de Russie, ça va être un peu comme à la grande époque de l'Union soviétique où la mère patrie Russie s'occupait de nous. Voilà, donc c'est un discours qu'on entend énormément. Alors, il y a le discours aussi des plus jeunes qui est très intéressant parce que là, on sent qu'il y a la modernité, il y a de la musique, il y a du rap, il y a de la techno, il y a tout ce qu'il faut. Mais la liberté de mouvement, elle n'existe pas chez les jeunes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Poutine n'a pas compris en s'attaquant à l'Ukraine, la modernité qui était arrivée dans ce pays.
Mais on va continuer à en parler, parce qu'il y a aussi l'aspect économique. On se souvient de cette phrase, l'effondrement va provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors, il est vrai que quand on voit les indicateurs de manière, je vais dire, factuelle, ce n'est pas du tout le cas. Vous nous direz aussi comment la société russe. Mais on va continuer à en débattre. D'autres sujets également. On va revenir sur l'école. L'école version Papandiaï. C'est la lutte contre les ignorants. Vous ne pouvez pas rêver, vous, on dirait. Bah,
écoutez,
vous
nous direz pourquoi. Je suis un petit peu sceptique, Sonia.
Bon. Bah, à tout de suite.
Un ministre qui rétablit la race, non, ça ne me plaît pas.
À tout de suite. Merci d'être avec nous, le Direct Midi News. On va évidemment continuer de parler de la situation en Ukraine, en Russie, avec le grand reporter Régis Le Sommier et tous nos invités. Alors, vous avez réagi sur BHL, qui était également sur place en Ukraine. Je me dis, on en parlait là pendant la pause, ce serait bien un débat, hein, une sorte de confrontation, évidemment... amicale, respectueuse entre vous pour voir ces points de vue, ces deux visions des choses. Vous l'accepteriez?
Ah bah, si vous l'organisez, Sonia, moi je suis tout à fait.
On va l'organiser, on va contacter Bernard-Henri Lévy à ce sujet. C'est important comme c'est un sujet qui nous concerne tous. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
Dans l'affaire Jubilard, la remise en liberté de son mari, Cédric Jubilard, sous bracelet électronique a été refusée. Il avait été mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020 et incarcéré 6 mois plus tard. Demandé par ses avocats en septembre dernier, sa libération sous bracelet électronique a donc reçu un avis négatif de la part de la justice. La sécheresse en France devrait coûter entre 1,6 et 2,4 milliards d'euros en 2022, soit potentiellement l'année la plus coûteuse pour ce type d'événement. Cette année pourrait en effet dépasser l'année 2003, pire année sur le plan de la sécheresse depuis la création du régime catastrophe naturelle. Enfin, les autorités iraniennes ont bloqué l'accès à certains réseaux sociaux après 6 jours de protestation contre la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs, dans lesquelles 11 personnes ont péri selon un bilan officiel. Le décès de la jeune femme de 22 ans a suscité une vague de colère en Iran depuis plusieurs jours.
Merci à vous, Audrey. Le débat, on va parler d'école. L'école version Papandiaï, priorité selon le ministre de l'Éducation à la lutte contre les inégalités. Bien, évidemment. Qui serait pour? Donc évidemment qu'il faut lutter contre les inégalités. Priorité aussi la lutte contre les stéréotypes du genre. Mais qu'en est-il de la lutte, par exemple, contre l'islamisme? Qu'en est-il du soutien aux professeurs? Pour l'instant, le ministre se concentre sur la lutte aussi contre les formes de racisme en France, dit-il. C'est ce qu'il a avancé devant des étudiants américains à Washington. Écoutons-le.
Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, je vous ferai écouter un professeur que vous connaissez bien, Paul Melun. Comment vous réagissez?
Je trouve ça assez drôle parce que là, il va prêter allégeance, si vous voulez, au temple de la cancel culture et du wokisme aux États-Unis d'Amérique, où il est, je trouve, parfaitement à sa place. C'est-à-dire qu'on a eu, à un moment donné, quand il a été nommé, on a réfléchi, on a dit, mais ce monsieur Ndiaye, c'est un ministre qui va être woke, qui va aller vers la cancel culture, les sujets de théorie du genre, qui nous expliquait qu'il y avait un racisme systémique en France, etc. Et puis on nous a dit, non, on n'avait pas le droit de critiquer, fasciste, extrême droite, etc. Toute personne qui osait émettre des doutes quant à ce monsieur Ndiaye était cataloguée d'extrême droite. Ben là, on a la preuve par l'exemple du programme que veut déployer Papandiaï. Et qui s'oppose totalement à ce qu'avait voulu faire Jean-Michel Blanquer, par exemple. Jean-Michel Blanquer, c'était il n'y a pas 10 ans, c'était il y a quelques mois. Et là, on voit, si vous voulez, la versatilité endémique du macronisme qui passe d'un ministre qui était celui, a priori, de la laïcité, qui commençait, effectivement, vous en parliez, Sonia, à parler du problème de l'islamisme rampant, à parler d'un certain nombre de sujets, à l'école, du niveau aussi, de la baisse du niveau, même si je trouve qu'il n'a pas fait suffisamment, M. Blanquer, mais enfin, il avait le mérite d'en parler. Et là, on tranche tout de suite avec Papandiaï, qui, lui, met ses enfants, effectivement, à l'école alsacienne, donc les inégalités, ça commence peut-être par mettre ses enfants dans le public ou dans un privé moins élitaire que l'école alsacienne, premier conseil que je pourrais lui donner. Et puis ensuite, effectivement, il s'en va nous parler du genre à l'école, des problèmes de gender, etc. Alors, il y aura un débat à avoir là-dessus. D'abord, est-ce que le genre, c'est le bon mot? Est-ce qu'on ne peut pas parler de sexe? Vous voyez, déjà, il va tout de suite sur une forme idéologique qui révèle son prisme idéologique, qui est tout à fait clair. C'est un ministre qui est woke, qui est pour la cancel culture. et qui va emmener, si vous voulez, l'école de la République sur ce chemin tragique, tragique. Et donc, effectivement, et tout cela avec la bénédiction d'Emmanuel Macron, qui probablement fait plutôt un calcul politique avec la nomination de M. Ndiaye qu'un vrai calcul, disons, d'adhésion idéologique.
Vous y allez au chalumeau, vous
Écoutez,
Moi, je suis en forme, comme tous les matins, d'ailleurs, j'ai remarqué.
Mais je pense que le chalumeau n'est pas consommé encore, parce que je vais vous dire, moi j'ai une fille qui entre au collège. Et elle veut dans le collège public. D'accord ? Et moi, ça me gêne d'avoir un ministre comme Pam Dian qui va aux États-Unis, là où d'ailleurs il a été formé. Mmh. En fait, c'est de là que vient sa formation intellectuelle. Il est chez lui. Qui nous dit que le concept de race, tel qu'il est développé aux États-Unis, n'est pas assez présent en France. Mais monsieur Ndiaye, est-ce que vous savez qu'en France, il y a une histoire culturelle, scientifique. Moi, il y a quelqu'un qui doit se retourner dans sa tombe et qui a formé des générations entières d'enseignants, qui s'appelle François Jacob, qui est un grand biologiste, qui a été prix Nobel de biologie, et qui expliquait à des générations entières qu'il n'y a pas de race. Tout simplement qu'il n'y a pas de race. Et que, en fait, les délires racialistes avaient conduit dans les années 30 aux pires horreurs de l'histoire. Et maintenant, les Américains nous essayent de nous réintroduire ce concept qui est extrêmement dangereux et qui ne correspond pas à la tradition française. Donc, en se faisant, en plus aux États-Unis, c'est-à-dire même pas sur le sol français, il introduit un concept qui contrevient à une philosophie française qui dit tout simplement qu'il n'y a pas de race.
Donc, si à l'étranger, on doit défendre notre pays.
Et dernier point, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis?
Il y a des problèmes très graves
d'apprentissage des fondamentaux du français, des maths, de l'histoire-géographie. Mais comment ne s'occupe pas de ça. Vous parliez tout à l'heure de l'islamisme. Mais que fait-il contre la montée de l'islamisme dans les écoles? Donc c'est vraiment très grave.
Tous réagir. Alors, il a d'autres priorités. Il les a connues, j'allais dire douloureusement, parce qu'il a quitté son métier. C'est le professeur de philosophie à Trappes, Didier Lemaire. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas de nouvelles de sa part. Il a dû tout abandonner. Évidemment, quitter son lycée à Trappes, son quartier, etc. Il a été menacé. Il a été ensuite accusé de mentir. Il a été accusé d'avoir amplifier les menaces à son endroit. Alors, il tire de nouveau la sonnette d'alarme. Écoutons-le ce matin sur Europe 1.
Je connais autour de moi des enseignants qui ont dû quitter leur poste parce qu'ils étaient menacés. Encore une fois, mon collègue de Trappes a dû quitter son poste. Il est maintenant dans un autre poste, mais il n'est pas soutenu par l'administration. On met toujours la poussière sous le tapis. On demande finalement aux enseignants d'éviter que les conflits avec certains de leurs élèves ne s'embrasent. Et c'est cela le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité finalement de l'État.
J'ai l'impression qu'il y a une réalité virtuelle de l'école pour certains et que Didier Lemaire nous rappelle. Alors pour lui, rien n'a changé. Hein, le pas de vague, non. Il est toujours là et on continue à mettre la poussière sous le tapis.
Globalement, je ne supporte pas l'idéologie wokiste. Et c'est une minorité qui fait partie de la population la plus discriminée et stigmatisée qui vous le dit. Vous savez que je suis handicapée visuelle. Et c'est un état d'esprit que je ne supporte pas. Parce qu'en fait, c'est la définition pure de catégoriser les gens pour les monter les uns contre les autres. C'est l'opposition permanente. Monsieur le nouveau ministre de l'Éducation nationale, effectivement, n'a pas grand-chose à voir avec l'ancien ministre Blanquer. Il y a un gouffre entre ces deux personnes en termes d'état d'esprit. Quand j'ai entendu ces images, je me suis dit, mais monsieur le nouveau ministre parle comme un militant et pas comme le ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'il est censé représenter tous les élèves de la République. Il a le droit, effectivement, d'aller aux États-Unis, de faire des conférences. Mais je rappelle que ce monsieur, en dehors de son intelligence, de sa culture, de son éducation, est le produit de l'ascenseur social. Il est nommé à un des postes les plus importants de la République. Et il se permet d'aller dire, grosso modo, que notre pays est raciste. Non, il y a des racistes dans notre pays. Et les racistes, vous les trouvez également dans ces minorités. Quelle que soit la minorité. Donc c'est tellement facile, une fois de plus, de généraliser en pointant du doigt un tel ou un tel. Ça m'est vraiment insupportable qu'on ramène ce système américain qui aussi, j'aimerais dire à ce monsieur, était le premier pays ségrégationniste. Je pense qu'il oublie un peu l'histoire. En France, nous avons tous été mélangés dans les transports, à l'école, dans les institutions. Je le redis, il y a des gens racistes en France. Mais il y a des racistes partout, dans toutes les catégories.
Donc, et il n'y a pas un racisme structurel.
Il n'y a pas un racisme systémique, structurel. Il n'y a pas un racisme...
Mais alors, quel est l'objectif de dire... Mais moi, ce que Régis, mais être à l'étranger, je pense que nous-mêmes qui n'avons pas de... Enfin, je parle pour moi d'une... Je vais dire un poste de représentation ni de légitimité par une mission, on ne dirait pas du mal de notre pays à l'étranger. En tout cas, on ne pointerait pas ses faiblesses et ses fragilités.
Oui, en plus, le rôle et le fait, enfin, son statut de ministre, le ministre de l'Éducation aussi, quand même, c'est un peu choquant. Moi, ce qui me perturbe dans ce que je vois là, j'ai deux enfants moi, qui habitent aux États-Unis, qui sont en université à Los Angeles, j'ai une fille qui est plutôt qui s'intéresse, disons, aux idées woke, et puis j'ai un fils qui est plutôt marqué, voilà. Et je sais que c'est
sympa la maison
assez...
chez vous.
Oui, non, mais attendez, c'est très sérieux ce que je vous dis. C'est très sérieux parce que c'est un problème qui me concerne, c'est-à-dire que il dialogue très mal à cause de ça. Qu'on n'imagine pas le degré de violence qu'il y a derrière cette idéologie. Vous avez des théoriciens, d'autres théoriciens qui n'ont pas été cités, comme un que je vais citer, qui s'appelle Saul Alinsky, qui, lui, parle de ce qu'on appelle de community organizing. Community organizing, ça veut dire aller chez les minorités et sortir la colère des minorités pour qu'ils s'expriment. C'est-à-dire, on ne fait pas simplement de dire « attention, vous êtes stigmatisés, réagissez, etc. » On va vous aider. Je signale au passage que ces théories-là sont enseignées aux universités d'été de la France insoumise.
Donc on retombe dans ce principe, dans cette matrice,
et de se rendre compte que notre ministre de l'Éducation se trouve finalement, qu'est-ce qu'il va faire autour de lui? Il y a des activistes, il n'y a que des activistes. Il n'est pas au milieu de représentants de l'école américaine, de la rectrice ou du recteur de l'université. Il est au milieu d'activistes, de gens qui sont dans cette idéologie. Et c'est là où c'est choquant qu'il aille de façon privée s'intéresser à ça. Parce que quand on étudie la carrière de M. Papendiaï, on se rend compte que finalement, il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'au jour où il découvre les États-Unis. Et là, il découvre un peu le petit Jésus. Ça y est, il se met à croire. Il se met à croire en cette idéologie. Et en fait, finalement, on a cru, comme vous le disiez tout à l'heure, fort justement, qu'au début... On va lui donner sa chance, regardons comment il va être. Et puis finalement, il a commencé à rendre un hommage à Samuel Paty. Bon, et voilà, on s'est dit, ça y est, il a changé, etc. Et puis là, on le voit en train de discourir devant des gens qui sont les chantres des divisions, qui veulent amener chez nous des divisions qui n'existent pas, qui veulent amener chez nous une vision du monde, et ça vous aviez entièrement raison, sur l'héritage français qui contredit, enfin une vision américaine qui contredit notre héritage politique, philosophique et même religieux. Et donc, puisque derrière le wokisme, il y a aussi un protestantisme ultra. Attention, hein, c'est le bien, le mal.
Le frère de Papendiaï, voilà. Le cheval de Troie de ses théories déconstructivistes.
Je ne pense pas qu'il se le rend lui-même. Enfin, si vous voulez,
c'est lui qui le fait.
Il va dans une réunion de militants. Enfin,
on ne cherche pas dans un inventaire
pour refaire le monde. Il va dans une réunion de militants. Mais pourquoi alimenter une idéologie qui n'est pas la nôtre?
Mais pourquoi? Parce qu'il était lui-même militant. Et à l'époque, il était à la place de ses étudiants.
C'est comme Éric Dupond-Moretti.
Mais là, il est dans une université américaine.
En tant que ministre.
Que parmi les étudiants, il y a des militants, c'est une chose. Mais il est dans une université.
Mais c'est pas de neutralité.
Oui, mais
moi,
j'aimerais...
Pardon.
Caroline.
Moi, j'aimerais aussi l'entendre sur ces professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, leur administration. Mais là, le problème n'existe pas. On reste dans l'omerta, le fameux pas de vague. Et puis, je voudrais aussi l'entendre sur les réunions interdites aux Blancs. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça?
Parce que c'est
bien
la situation sur le sujet.
Voilà, on aimerait bien l'interroger.
Moi aussi.
Juste, je voudrais. C'est quand même assez scandaleux.
Interdit aux
hommes. Vous avez parlé du manque de soutien des professeurs. Didier Le Maire, évidemment, n'a pas eu le soutien qu'il devait avoir. Et de manière beaucoup plus tragique, terrible dans notre pays, c'est Samuel Paty qui n'a pas eu ce soutien. Et donc, j'ai posé la question ce matin à Didier Le Maire. Je dis, mais depuis tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un sursaut? Est-ce qu'il pourrait y avoir encore des Samuel Paty, autrement dit des chocs aussi violents, aussi terribles, dramatiques dans notre pays? Écoutez sa réponse.
Oui, malheureusement, je pense que la pression sur les enseignants se banalise. Et encore une fois, toutes ces personnes qui relaient le discours de l'islamophobie, finalement, contribuent à mettre sur tout enseignant qui défendra les principes républicains une cible dans le dos. Dans son dos.
Bien sûr, il parle d'or. Mais si vous voulez, quand on voit que M. Ndiaye, il explique dans cette université américaine que la priorité, c'est la lutte contre l'extrême droite en France, parce qu'en France, on est gangréné par l'extrême droite, on voit bien que, si vous voulez, la priorité de M. Ndiaye, c'est cette fameuse extrême droite très importante qui agresse les gens dans la rue, etc., etc., soi-disant. C'est ça, la priorité de M. Ndiaye. Et donc, effectivement, le fait que certains nombres de professeurs soient victimes, soient en danger, craignent parfois pour leur vie, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus enseigner correctement leur matière. Là, ça lui fait ni chaud ni froid, M. Ndiaye. Or, s'il était un bon ministre de l'éducation nationale en France, il devrait nous parler en universaliste. Il devrait rejeter toutes ces histoires de wokisme à 3 francs mais et puis nous dire « je suis un universaliste, la France n'est pas raciste, la France est celle de Gaston Monnerville ».
Mais il ne l'est pas. Alors, il ne l'est pas, ou alors on ne comprend pas ces nuances, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit « vous ne m'avez pas lu, vous ne m'avez pas lu, vous m'avez déformé mes propos ».
Comme le disait Régis Le Sommier, l'élément déclencheur dans la vie intellectuelle de Pape Ndiaye, ça a été son voyage aux États-Unis. Et c'est comme si d'ailleurs toute sa formation française ne l'avait pas façonné. Une chose, petite parenthèse, moi ce qui m'énerve toujours, c'est que grosso modo, il s'affiche comme étant une réussite noire en France. Mais ce en quoi il se trahit lui-même, puisqu'en fait il est le produit d'une double culture, et noire sénégalaise, et blanche française. Et moi, je trouve cela hallucinant, même de sa part, dans son parcours personnel et dans ce qu'il incarne comme valeur, que quelque part, il trahit une partie de ce qu'il est lui-même. Ça m'a toujours gêné. Je pensais exactement la même chose de Barack Obama, qu'on présentait comme étant une réussite noire aux États-Unis, alors qu'on en oubliait le fait que sa maman était américaine blanche.
Oui, voilà. Barack,
Barack Obama n'avait pas de ressentiment
et surtout,
j'ajoute. Et surtout, j'ajoute, ce qui est terrible, vous voyez, moi-même, dans les mots que nous employons, on est pris au piège. C'est que, encore une fois, dans la tradition française, et pas que française, c'est aussi la science qui le dit, une personne ne se réduit pas à sa couleur de peau.
Encore
et donc, le fait que Pape Ndiaye introduise dans le discours global... Enfin, il y a un président de la République qui s'appelait François Hollande qui avait essayé d'enlever le mot race de la Constitution, rappelez-vous. Ouais. C'était en 2012. Il avait renoncé, finalement, pour d'autres raisons. Mais le fait d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui remette la couleur de peau et l'origine racialiste qui est complètement contradictoire et qui est factuellement fausse, au centre d'une pensée intellectuelle. Et puis pour terminer...
On va continuer après. Je voudrais préserver les quelques minutes qui nous restent avant le 13h pour revenir quand même, et on va continuer à parler d'école, c'est un sujet majeur, à la Russie avec vous tous et le grand reporter Régis Le Sommier. Il y a quand même des images hier. Il y a des images qu'on aimerait quand même connaître leur... Non, pas leur réalité, elles sont réelles, mais leur importance certaine. Quand on parle de Russes qui sont en train de partir, combien sont-ils? Qui sont-ils, ces Russes qui sont en train de partir? On a vu des files de voitures, on a vu des gens qui prennent l'avion. Regardons ce sujet, vous allez nous dire, Régis, qui sont ces gens qui fuient aujourd'hui le pays?
Des embouteillages sur les routes, à la frontière entre la Russie et la Géorgie. Et des centaines de vols au départ de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces passagers arrivés à Belgrade ce matin avaient réservé leur vol de longue date.
Ma venue ici n'a pas de lien avec la mobilisation, mais c'est peut-être un coup de chance pour moi. Peut-être pas, on verra.
La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur de mourir, toutes ces choses-là.
Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes. 300 000 personnes destinées à rejoindre les soldats déjà déployés sur le front. Conséquence immédiate, le tarif des billets d'avion au départ de Russie a explosé. 8 fois plus cher pour un Moscou-Istanbul en l'espace d'une semaine.
Ça ne fait que rajouter encore un peu plus de difficultés et de prix à ces avions qui sont déjà pris d'assaut. Jusqu'à dimanche, pratiquement, Istanbul, il n'y a rien. Erevan, c'est à des prix déments. Trouver un aller simple à 7000 euros.
Cette augmentation des prix s'explique aussi par le peu de destinations actuellement ouvertes. Depuis la fermeture de l'espace aérien européen, seule une poignée de pays comme la Serbie ou les Émirats ont une liaison directe avec la Russie.
Quelle est la réalité de ce départ, cette hémorragie, si on en croit ces images?
Écoutez, moi j'y étais il y a moins de 48 heures à Moscou. Ce qu'expliquait cette personne sur les tarifs sont déjà exorbitants. Hein. Le Paris-Moscou, un vol direct à une certaine époque, on le trouvait à 250 euros. Aujourd'hui, c'est forcément via Istanbul. Et via Istanbul, c'est de 2 500 euros, donc 10 fois plus cher. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez fait allusion au voyage que j'ai fait de 19 heures entre Rostov-sur-le-Don et Moscou. Il y a beaucoup de destinations qui ne sont pas accessibles, tout simplement à cause des combats. En Russie, on se relie au rail, mais c'est aussi une habitude de vie installée depuis très longtemps. En Ukraine aussi, on utilise énormément les trains. Le train est le véhicule privilégié, surtout que les avions, c'est relativement récent. Mais pour revenir sur la réalité de ces, je pense qu'il va falloir qu'on voit dans les prochains jours si le mouvement se poursuit. Encore une fois, cette mobilisation partielle, faut bien le préciser, concerne effectivement 300 000 réservistes. Des militaires, pour la plupart, donc il y a 120 millions de Russes, 300 000, c'est beaucoup, mais à la fois, ce n'est pas une mobilisation générale de tous les hommes en âge de combattre. Donc, il y a une différence. Ensuite, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que, parce qu'il faut les passer, les frontières. Je peux vous dire que moi, j'en ai passé quelques-unes, c'est très, très compliqué, y compris d'ailleurs entre les républiques de Donetsk et de Lugansk et la Russie, où là, on passe des queues, les queues sont interminables, on a le droit à des interrogatoires, on vous demande ce que vous êtes venu faire dans la République de Lugansk et pourquoi vous allez en Russie. Enfin, c'est quand même, voilà, donc il y a aussi des frontières intérieures qui sont assez hermétiques. Donc la question, c'est est-ce que toutes ces personnes-là veulent partir? Peut-être que oui, il y en a certaines qui... mais c'est comme les manifestations. 1300 personnes ont été appréhendées. Est-ce que le mouvement va durer? Souvenez-vous, au début de la guerre, il y avait eu aussi des manifestations. Il y avait eu une personne à Saint-Pétersbourg, une vieille dame qui avait expliqué qu'elle ne voulait pas revoir la guerre.
Oui, il n'y a plus de manifs depuis le début de la guerre.
Comment?
Il n'y avait quasiment plus de manifestations dans les rues des villes russes.
C'est le la risque question, d'escalade, parce qu'ils restent anciens, les jeunes ne veulent pas de cette guerre. Oui,
ce qui est assez terrible, je vous raconter, moi, pas le quotidien des Russes, mais là, je suis allé dans trois villes, principalement à Voronezh, à Rostov et à Krasnodar, où j'ai passé quelques jours, plus à Moscou. Ce qui est assez déroutant par rapport à tout ce qu'on entend ici, c'est de voir que les supermarchés sont absolument bondés, que les gens consomment énormément, que même les technologies, si vous voulez trouver des iPhones, vous en trouvez, que la plupart des magasins ont été remplacés, de ceux qui sont partis, des enseignes européennes, etc., par soit des franchises locales qui ont repris le nom. Je ne vais pas citer les noms parce qu'on ne cite pas le nom.
Il est où l'effet des sanctions alors ?
Mais justement, il n'est pas encore en tout cas, du point de vue du consommateur russe,
d'accord,
si vous voulez.
Du point de vue du consommateur européen, on a perçu l'effet des sanctions.
Qu'est-ce que vous avez qui se passe ? Vous avez le magasin Sony, par exemple, ou Samsung qui va fermer, imaginons. Vous avez le chinois qui attend à côté. Et vous avez du chinois partout. Oui. Et donc la question, ce qui est en train de se redessiner économiquement, et pardonnez-moi si je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, c'est un axe Moscou-Istanbul-Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï devient l'endroit où se déclarent les franchises. Les Suisses continuent leur business depuis Dubaï en ouvrant des franchises à Dubaï, en domiciliant des sociétés à Dubaï. Voilà. En Russie, qu'est-ce qui s'est passé avec Renault? Regardez, c'est le management russe qui a racheté l'enseigne pendant 3 ans. Beaucoup de boîtes ont fait comme ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'un certain nombre de sociétés qui comportaient, qui exportaient en Russie notre style de management, nos performances, eh bien les Russes s'y sont adaptés. Ils ont appris, ils apprennent très très vite, ils ont rattrapé en 10 ans énormément au niveau du service aux consommateurs, la Russie incroyablement avancée. Et donc tout ça finalement, nous on s'en va maintenant.
La place est prise.
Le McDo, il a été changé. Je vous donne un dernier exemple. J'étais à côté de la place Rouge à Moscou, j'ai demandé un coca. On m'a donné un coca avec des lettres arméniennes dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attaquer l'Arménie? Empêcher? Elle est déjà en mauvais point. Suspendre les relations parce que coca continue à commercer avec la Russie via l'Arménie? Non, c'est juste un exemple.
La réelle politique.
Voilà.
On va continuer. Ah là, c'est édifiant, ce que vous me racontez. On va continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Restez avec nous quelques minutes à peine et on revient. Merci d'être avec nous au Midi News direct. On a largement parlé de la Russie, de l'escalade, jusqu'où
Cette guerre va-t-elle aller? On va continuer à en parler avec nos invités et le grand reporter Régis Le Sommier. On parlera aussi de l'école, version Pap Ndiaye, des éoliennes, tiens, stop ou encore pollution, solution. Je suis sûre que vous avez votre opinion à ce sujet. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour Olivier.
Rebonjour Sonia, rebonjour à tous. Et justement, à la suite de l'annonce de la mobilisation des réservistes de l'armée par Vladimir Poutine, mais aussi les menaces russes concernant l'utilisation de l'arme nucléaire, les ministres de l'Union européenne se réunissent cet après-midi à New York. Elisabeth Guedel, vous êtes justement à New York et il faut s'attendre à la prise de nouvelles sanctions contre la Russie.
Oui, vous savez, c'est de mettre la pression maximum, c'est ce que veulent faire les Occidentaux, donc les Européens comme les Américains. Les ministres des Affaires étrangères des 27 se sont réunis en fait la nuit dernière pour parler, pour réagir aux déclarations de Vladimir Poutine. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient prendre des nouvelles sanctions. On ne connaît pas encore la nature de ces sanctions. Pas évident que les 27 s'accordent sur la nature de ces sanctions. Mais en tout cas, c'est sur la table. La semaine dernière, c'était les Américains en avaient pris, visant des responsables et des banquiers russes. Et puis, il va y avoir donc beaucoup de pression tout à l'heure au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une réunion très importante au niveau des ministres des Affaires étrangères. C'est Catherine Colonna, la ministre française, qui présidera cette réunion du Conseil de sécurité où là, il sera question de crimes de guerre en Ukraine. Comment punir les auteurs des crimes de guerre? Évidemment, la Russie va se retrouver très isolée. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, sera présent. Il va devoir se défendre parce qu'il a beaucoup, beaucoup de critiques, évidemment, suite aux déclarations de Vladimir Poutine. Et donc, une assemblée générale, vous savez, à New York, vraiment placée sous le signe de l'isolement de la Russie, de la pression maximum.
Merci Elisabeth pour ces précisions. Et Elisabeth Guedel en direct de New York. Et justement, après ces déclarations de Vladimir Poutine, eh bien, il a été observé une augmentation du trafic aérien, notamment depuis Moscou. Des Russes qui ont fui leur pays, notamment pour aller en Turquie. Écoutez ce témoignage.
So, partial mobilization is one of the reasons why I'm here.
La mobilisation partielle est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. C'est une très mauvaise mesure et il semble qu'elle puisse entraîner énormément de problèmes pour beaucoup de citoyens russes. Bien sûr, je suis inquiet. Je ne croyais pas que l'étape suivante serait la mobilisation et j'ai l'impression que peu de Russes veulent se mobiliser pour aller dans l'armée et se battre.
En France, au volet judiciaire, le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été tué par le père de sa petite amie, c'était en 2014. La peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle requise contre lui. Écoutez l'avocat de l'accusé au micro de Noémie Schulz.
Bien évidemment, il y a un crime qui est loin d'être un crime d'honneur. On a qualifié ça à tort d'être un crime d'honneur. Tuer un homme, c'est pas un honneur. Bon, donc, mais il y a dans cette affaire beaucoup d'éléments qui plaident quand même, qui militent pour que M. Luc ne soit pas condamné à la peine maximale. Et j'espère qu'il ne le sera pas.
Et l'affaire Jubilard à présent, la remise en liberté de son mari Cédric Jubilard sous bracelet électronique, elle a été refusée. Il avait été mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020, incarcéré 6 mois plus tard, demandé par ses avocats en septembre dernier. Sa libération sous bracelet électronique a donc reçu un avis négatif de la part de la justice. Et puis remise en liberté sous contrôle judiciaire hier d'Aminata Diallo, qui entend bien prouver son innocence. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Kera Amraoui, sa coéquipière. Pour son avocat, maître Mourad Batik, eh bien, Aminata Diallo n'y est pour rien dans ce dossier. Écoutez-le.
Si dans un premier temps, nous avons eu une lecture du dossier parcellaire à travers les médias qui en faisaient une lecture très à charge, la lecture approfondie du dossier depuis près maintenant d'une semaine nous a rassurés sur l'incapacité qu'a l'accusation à relier par un quelconque élément matériel Aminata Diallo aux agresseurs.
Et tout de suite, place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant, la chronique sport, Olivier Giroud, il a les yeux rivés vers le Qatar.
Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
Sector, no limits.
«
Bientôt 36 ans, déjà champion du monde, mais une détermination intacte. Giroud l'affirme, le statut de remplaçant ne l'empêche pas de rêver de mondial. Mais les dernières apparitions en bleu de l'attaquant sont rares depuis l'Euro 2020 passé justement sur le banc. Deux matchs amicaux disputés seulement avant les deux prochains. Impossible donc de savoir s'il sera au Qatar.
Il aura du temps de jeu, c'est continuer après de tout faire pour être performant.
Et s'il est déjà performant en club avec 4 buts et une passe décisive, Giroud l'est surtout en sélection avec l'une des meilleures moyennes de buts par match. De quoi peut-être faire pencher la balance.
Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes.
Sector, no limits.
Tiens, des images en direct. Regardez, le président Emmanuel Macron qui va inaugurer dans quelques instants le premier parc éolien en mer en France au large de Saint-Nazaire. Ce sont 80 éoliennes qui devraient fournir 20% de la consommation du département de Loire-Atlantique. Le coût du projet, je le dis en passant, 2 milliards d'euros. Alors, vous vous en doutez, il y a beaucoup de résistance, on va en parler. Alors ça, c'est un sujet... Tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis sur les éoliennes. C'est vrai, je suis très, très étonnée à chaque fois. Parfois, on m'interpelle dans l'arrière. On me dit, mais sur les éoliennes, on va en parler parce qu'il y a l'aspect esthétique, il y a l'aspect énergétique et il y a l'aspect business. C'est incroyable le business. Je suis allée voir les chiffres, ce que ça peut rapporter à certaines sociétés. Je pense même à une reconversion, peut-être. Frédéric Durand, bonjour.
Bonjour.
Merci. Non, pas de reconversion pour vous. L'inspiration politique, votre revue... marche très bien.
Vous ne croise pas d'air.
Vous en êtes... Oh, c'est joli. L'eurodirecteur.
Si, Paul j'ai Melan. La baseline.
Essayiste, président de Souverain Demain. Michel Taub, qui est fondateur d'Opinion Internationale. Et Régis Le Sommier, grand reporter. Régis, vous avez beaucoup de réactions. On va continuer à parler de ce que vous avez vu, de la manière dont vous appréhendez aussi votre travail sur le terrain, à la fois en Ukraine et en Russie. Et beaucoup vous interpellent sur la situation économique. En Russie, on a envie de savoir comment les Russes, la société russe, vit ces sanctions. Apparemment, pour l'instant, les effets ne sont pas aussi dévastateurs, terribles que ne l'ont permis les Européens. On va en dire un mot. Mais tout d'abord, je vous le disais, une résistance aux éoliennes et à ce parc qui va être inauguré dans quelques instants. Alors, ce sont des élus, ce sont évidemment des habitants qui se mobilisent. Et ils disent une chose très simple, ils ne parlent pas d'énergie, ils ne parlent pas d'argent, ils vous disent que c'est une pollution visuelle, que ça gâche notre patrimoine, finalement, notre paysage, ce qu'on a de plus précieux. C'est un reportage de Michael Chaillot, regardez.
Les dernières éoliennes ont rejoint le large début septembre. Les habitants découvrent pour la première fois cet alignement de 80 machines, visible au plus près à 12 km de la côte, comme ici à Basse-sur-Mer.
C'est vrai que pour la vue, par exemple, comme là... C'est pas terrible, quoi. Rien de ça fait beaucoup. Mais ça gâche la vue complètement, quoi, c'est clair.
Même réaction chez les maires du littoral qui estiment que la pollution visuelle est beaucoup plus importante qu'annoncée.
On peut considérer que la ligne d'horizon que vous avez ici, elle est quand même défigurée.
On nous a montré des images de synthèse qui n'étaient pas en fin de compte vraiment la réalité. Et ça aussi, il y a une perception des habitants ici qui disent que le bâton d'allumette s'est transformé plutôt en tronc, si ce n'est même en arbre assez proéminent.
En réalité, une grande majorité des habitants et tous les élus sont partagés sur la question entre condamner une pollution visuelle et accepter une réponse écolo à notre précarité énergétique.
C'est mieux qu'une centrale nucléaire ?
La nécessité parfois fait loi et c'est pour ça que ce mal qui est visible, ben il est nécessaire aussi dans le fonctionnement de notre vie quotidienne.
Le maire de La Baule estime qu'un vrai effort de pédagogie doit être fait pour faire accepter les futurs projets éoliens au large. À Basse-sur-Mer, la commune réclame un doublement de sa compensation financière estimée à 277 000 euros par an.
Quand on aime... Bah, la nature, tout simplement, quand on aime paysages, la France, comment ça peut ne pas heurter ? Pardonnez-moi, c'est une question un peu orientée. Vous aurez compris mon avis. Mais comment ça peut ne pas heurter ? Comment c'est possible ?
Là, on parle de l'éolien offshore, effectivement. Il y a l'éolien terrestre aussi. Vous avez des régions entières de France. Moi, je connais bien les Deux-Sèvres pour y habiter. C'est des régions qui sont saccagées par l'éolien. Vous ne pouvez pas tourner la tête d'un côté. Vous n'avez pas des mâts de parfois 200 mètres de haut avec devant une petite chapelle du Xe siècle ou un lavoir ou que sais-je qui va être défiguré par ça. Donc, ça défigure le patrimoine naturel, les forêts, les bois, les zones artificialisées pour pouvoir construire ces mâts, parfois même la faune. Il y a des zones qui sont aux Natura 2000 qui sont protégés pour les oiseaux, qui désormais...
Vous n'êtes pas habitué, mais... vous, Paul, hein, à les regarder, non?
Ah, moi, j'aime pas trop.
Non, non, on a compris, mais on ne s'habitue pas.
Ah non, on ne s'habitue pas. Et puis, si vous voulez, quand vous dites à des habitants qui ont un pavillon qui vaut, je ne sais pas moi, 180, 200 000 euros, la maison, elle va valoir bientôt 110, 120 000 euros parce qu'il y a une éolienne à l'autre bout du champ. Évidemment, c'est difficile à encaisser. Surtout que là, il n'y a quand même aucune espèce de démocratie participative. Le président de la République nous parle de démocratie participative toute la journée. C'est faux. Là, il n'y a pas un seul référendum local qui serait organisé sur les éoliennes, par exemple, parce qu'on connaît déjà l'issue de tout référendum qui pourrait y avoir lieu. Et j'observe par ailleurs que ces éoliennes, ces parcs éoliens en mer dont on nous parle, ils n'ont pas été construits au Touquet. Ils n'ont pas été construits à Saint-Émilion. Ils n'ont pas été construits à Saint-Paul-de-Vence. En général, l'éolien terrestre, c'est chez les gens qui ont des terroirs qui n'intéressent pas beaucoup à Paris. C'est souvent très centralisé comme décision. Et c'est la même chose en mer. Donc, si vous voulez... Il faudrait revoir ça. Alors après, il ne faut pas être dans l'anti-énergie renouvelable à tout prix. Vous pouvez faire des éoliennes le long de l'autoroute A10, par exemple, ça me choque un peu moins déjà. Vous pouvez faire des panneaux solaires sur des grands parkings de centres commerciaux en région parisienne, sur des zones déjà artificielles, ça me choque moins. Par contre, défigurer des paysages et des terroirs et les saccager de cette façon-là, je trouve ça absolument insupportable.
Mais on va parler des limites énergétiques et écologiques des éoliennes. Vous avez remarqué que ceux qui vous disent qu'il faut des éoliennes, souvent ce sont des écologistes. Un peu, on va dire, radicaux.
Très urbain aussi.
Très urbain. Ouais. Des villes, voilà. Plus que des champs.
Voilà. Bien sûr.
Il y a quand même deux chiffres qui sont hyper intéressants. On entendait une dame dire que c'est mieux qu'une centrale nucléaire. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait sûr que dans le Nord-Cotentin, il y a une centrale nucléaire. Enfin, il y a évidemment la centrale de retraitement des déchets nucléaires de La Hague, qui peut effectivement esthétiquement poser des problèmes. Mais il y en a une autre qui a été construite, qui s'appelle Flamanville, qui est à peine visible qui est visible de la mer, mais qui n'est pas visible pratiquement de la terre. Je vous donne juste un exemple. Cette centrale, il y a deux tranches, une troisième tranche qui va être faite de 1300 MW chaque tranche, donc ça fait 2600 MW. Le parc éolien français, c'est 11 MW. Donc voilà, donc vous êtes la totalité du parc. Donc pour vous expliquer la puissance d'une centrale nucléaire par rapport à cet éolien qui gâche le paysage. Alors après, oui, on peut dire oui, il peut y avoir des catastrophes, il peut y avoir des problèmes, en effet. Mais le nucléaire français jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Donc dire c'est mieux qu'une centrale nucléaire, j'en suis pas sûr.
Mais vous vous souvenez, il y a quelques années, quand malheureusement, il y avait pour certains le nucléaire honteux, on nous vantait les... Mais voilà. On y est, mais je me souviens très bien du nucléaire, vous ne vous rendez pas compte, c'est sale, c'est polluant, c'est pas sûr, vous allez voir ce que vous allez voir avec les éoliennes. Ah oui, je vois vos yeux briller.
Non, il y a un autre problème lié à ça, je pense que la polémique politique nous fait perdre énormément de temps. D'abord sur la question, Macron, il tourne un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop ce qu'il veut un jour puis le lendemain. Et puis qu'en est-il par exemple, justement à cause de ces polémiques, la recherche sur le nucléaire par exemple, la réutilisation d'une partie des déchets faiblement radioactifs, où en est-on? On a tout arrêté à un moment donné, c'est ça le plus grave je pense, c'est qu'au prétexte de polémiques politiques, etc., on arrête de faire ce qu'il aurait fallu faire et continuer et accélérer, c'est-à-dire la recherche pour arriver à un nucléaire propre, par exemple, en arrêtant d'agiter des peurs inutiles. Bien sûr qu'on sait qu'il faut une partie du renouvelable. Après, il faut être très clair, hein, personne ne veut voir chez lui. Moi, je me rappelle pour le TGV, il n'y avait personne qui voulait le laisser passer, tout le monde le prend, mais personne ne voulait le voir passer à côté de chez lui. C'est aussi une réalité. Voilà. Donc, le problème, et là je vous rejoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les met souvent aussi dans des endroits dont on dit aux gens, il y en a beaucoup en Hauts-de-France par exemple, de dire mais de toute façon c'est né chez vous, donc c'est ce que dit Jérôme Fourquet dans nos colonnes de notre dernier numéro, il dit, on leur dit un petit peu, déjà c'est pas très beau chez vous, donc c'est pas grave. Donc il y a aussi une sorte de ségrégation géographique, une sorte de racisme géographique là, par rapport à ces populations-là, et c'est absolument scandaleux. Et donc, comme il y a beaucoup de tergiversations, qu'on ne sait pas où veut aller le pouvoir, qu'on nous dit plus de nucléaire, on ferme Fessenheim, etc., etc., et que derrière, on dit, maintenant, il faut se remettre au nucléaire, voilà. Tout ça est...
Mais en plus, il y a une aberration même nationale. Moi, je me souviens de la ministre, comment s'appelait-elle, Barbara Pompili, qui m'avait dit, mais les éoliennes, vous ne vous rendez pas compte, pour l'emploi, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vital.
Totalement fou.
Mais est-ce que vous savez que moins de 1% du parc éolien, ce sont des constructeurs nationaux?
Ça rapporte beaucoup à certaines entreprises.
Ah non, mais c'est un business de dingue. Un pognon de dingue, c'est un business de dingue.
Normalement, il y a deux choses qui sont des arguments insurmontables. C'est-à-dire, d'abord, il y a une atteinte au paysage qui font partie du patrimoine français, qui est absolument considérable. Alors, évidemment, à 15 km, c'est peut-être moins ça affecte moins que sur des terres, etc.
Ah, mais quand on veut regarder vers l'horizon.
Mais, hein. Exactement, mais lorsque vous entendez les élus dans le reportage que vous avez diffusé, ça les affecte manifestement et ils n'ont pas été consultés et associés à la décision. Donc, il y a des Yann Kefelec qui sont vent debout pour justement dénoncer ces atteintes au paysage français qui font partie de notre patrimoine et qui font l'image de la France. Et puis après, il y a l'aspect économico-écologique qui est très important. Pourquoi on investit des milliards dans l'éolien, alors que par exemple sur le solaire ou sur l'hydroélectrique, on aurait pu mettre le paquet avec peut-être des gains énergétiques plus importants et on ne l'a pas fait. C'est parce qu'effectivement, il y a aussi des enjeux industriels qui sont souvent portés par des entreprises qui ne sont pas françaises, qui sont souvent des entreprises européennes et qui font qu'on met le paquet là-dessus.
Ben, c'est dénoncé, mais...
C'est pour ça qu'on en parle et je pense que sur l'éolien, le rapport entre le coût d'investissement et les gains énergétiques, Régis Sommier disait...
Moi, je me suis trompé, c'est 11 gigawatts. Hein. Mais si on met l'ensemble des centrales, c'est voilà. Une portion, mais infime. Là, je vous parlais d'une seule centrale pour un seul département.
Plutôt que d'investir des milliards sur l'éolien, il aurait peut-être mieux valu investir sur le solaire, sur l'hydroélectrique. On a, par exemple, un patrimoine extraordinaire hydroélectrique en France que l'on n'arrive pas à exploiter suffisamment parce que souvent, EDF, il met son frein, mais c'est un autre sujet.
Vous avez dit racisme, il n'y a pas une fracture territoriale. Il y a combien d'urbains en France?
Il y a 20% de ruraux, en tout cas.
Voilà. Donc, on va dire 8 Français sur 10 sont urbains. Ouais.
Voilà. À peu près 8 Français sur 10 sont urbains dans des villes moyennes.
Ben voilà. Et donc, c'est une minorité, donc on met les éoliennes. Mais c'est terrible.
Bien sûr,
mais
ça qui est terrible.
Ça, c'est un déni de démocratie. Non,
on ne peut pas installer dans toutes les éoliennes de Sonnier-en-Brouck au centre de Paris.
Je sais bien.
Il faut du vin, il faut un certain nombre de conditions.
Donnons le pouvoir politique à ceux qui auront les éoliennes en bas de chez eux.
On ne peut pas en bas de la mairie de Paris, vous êtes sûr?
Au sommet de la Tour Eiffel.
Un spécialiste pourrait transformer la Tour Eiffel en éolienne déjà.
Mais brasser du vent dans le troisième arrondissement de Paris, on embrasse beaucoup du vent.
Mais j'ai tout de même du mal à comprendre la position d'un
Français. Ramenez le sérieux sur ce plateau, parce que là, ça va plus du tout, Michel, s'il vous plaît.
Vous avez le soleil, là. Mais un Franck Louvrier, maire de La Baule, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, j'ai quand même du mal à comprendre ça. Sa position.
Ça rapporte des fous, on a un extrait sonore de Franck Louvrier.
Finalement, il condamne les effets visuels, mais en même temps, il dit qu'il faut comprendre.
Oui, ça rapporte à la ville. Ça rapporte à la ville.
On a quand même en termes de démocratie locale et de participation des élus locaux décisions aussi stratégiques, on n'y est pas.
Et puis, alors, vous savez, j'ai ce petit appareil dans l'oreille, petit mais costaud, parce que tout le monde n'est pas d'accord en régie, notamment Habiba Mguizou qui. Thibaut Palfranc, qui est de Hauts-de-France, et qui sont plutôt... Alors que leur regard, leur œil s'est habitué, finalement, aux éoliennes.
Et celui de Xavier Bertrand, non, apparemment.
Chacun non, ses yeux.
Intéressant.
Oui. Non, mais enfin, mais je pense très franchement, il faut vivre aussi dans les petits villages, souvent. Ça. Parce que le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a des zones comme le Berry, par exemple. Moi, je connais. Il y a eu des combats qui ont été menés par des municipalités où les habitants se sont ligués contre l'implantation des éoliennes. Parce que, tout simplement, au départ, quelques agriculteurs s'étaient dit, oui, ça va me rapporter, ça me fera un revenu complémentaire. Donc, les entreprises sont arrivées de façon un petit peu sauvage, comme ça, pour s'implanter, en disant, vous verrez, il n'y a pas de problème. En fait, il y a quand même une nuisance sociale. Sonore, il y a quand même aussi des espèces d'oiseaux qui sont chassés par les éoliennes.
Enfin, artificialisation des sols.
Et puis aussi, le côté écologiste, ça coûte quand même. Non, et puis, matériel quand même.
Attendez, on dépense paye de... Parce qu'il y a une fracture, on l'a dit, territoriale, sur le paysage, mais il y a une fracture, une sorte de fracture fiscale. Parce que qui paye le lourd tribut de ces éoliennes ensuite? Parce qu'il faut bien les... C'est un financement, c'est un coût énorme. Moi, je me rappelle d'un rapport de la Cour des comptes, on aurait pu financer notre parc nucléaire. Et la maintenance de nos centrales nucléaires, on aurait très bien pu les financer.
On n'avait pas le même discours sur le nucléaire à l'époque.
Oui, c'est ça.
Venez-vous.
Mais comme les éoliennes, ça tourne.
Non, mais c'est pour ça qu'on est sur des, comment dire, on est sur des stratégies de très long terme. Et on fait sans arrêt avec l'opinion publique. Il y a une vraie difficulté d'ailleurs. Mais on fait avec l'opinion publique, pas au sens démocratique du terme, on interrogerait, parce que moi je suis assez pour. Si votre collaboratrice vous dit qu'ils se sont habitués dans les Hauts-de-France, qu'elle est d'accord et que les gens sont d'accord. Pourquoi pas? Sauf que ce sont les stratégies.
Ne me fâchez pas avec elle, c'est la chef.
Pardon.
C'est la co-chef.
Non, mais je dis très bien, justement. Je dis que les gens décident.
Vous ne voudrez pas que vous ayez d'ennui, Sonia.
Pardon. Qu'on décide au plus près du terrain.
Sonia Mabouk elle-même.
Qu'on décide.
Je crois que vu mon introduction, c'est assez clair.
Qu'on décide au plus près du terrain, c'est très bien. Mais on est néanmoins dans des stratégies de long terme où il ne faut pas, à chaque changement de l'opinion publique, changer de stratégie.
C'est l'opinion qui change.
Regardez sur le nucléaire,
les soi-disant élites. Écoutez-moi, je vous assure, sur les... Pourquoi vous allez demander Il y a quelques jours, j'ai reçu François Bayrou au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Et sur le nucléaire, il m'a dit, mais ce ne sont pas les gouvernants qui poussaient pour qu'il y ait moins de nucléaire, ce sont les populations. Je dis, mais quelle population? C'est dans les salons parisiens ou c'est dans les campagnes?
Il y a 30 ans, vous auriez fait le sondage sur le nucléaire, excusez-moi. Il y avait une ambiance telle et un manque
d'explication. Il y a 30 ans.
Oui. Et un manque d'explication telle qu'effectivement, les gens étaient effrayés. Et c'est la réalité.
Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles ont été l'apanage pendant des années, c'est encore un peu le cas, d'une forme de lobby néo-écologiste, souvent urbain, qui n'a que faire des problématiques d'énergie que vous souleviez sur le nucléaire, qui sont très justes, et qui, par pure idéologie, sont devenus des anti-nucléaires patentés, qui ont grippé la machine, qui nous ont empêchés de faire nos recherches, empêchés de recruter des ingénieurs de haut niveau, ce qui était un avantage comparatif immense de notre pays. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des mâts de 250 mètres partout dans nos territoires ruraux, effectivement dans les territoires ruraux oubliés.
C'est une aberration.
On peut s'habituer visiblement. N'oublions pas l'influence de l'Allemagne. L'influence de l'Allemagne qui, parce qu'elle ne maîtrise pas cette technologie, parce qu'on a le leadership, va tout faire.
Et par extension, l'Union européenne.
Et voilà, exactement.
Moi, je ne comprends pas qu'on puisse être écologiste aujourd'hui et contre le nucléaire. Il me semble qu'il y a là une contradiction évidente.
Éric de Ritmaten, vous avez compris qu'on était un petit peu contre les éoliennes, mais est-ce que vous pouvez nous donner les faits, finalement, est-ce que ça peut apporter, évidemment, en termes d'énergie, quel coût énergétique, mais quel bénéfice également, s'il y en a?
J'ai entendu plein de choses. C'est vrai que malheureusement, on n'a plus de fabricants français, puisque Alstom avait construit une usine pour faire des éoliennes, et puis c'est reparti presque aussitôt chez les Américains de General Electric. Il y a Siemens, l'Allemand, il y a quand même quelques Européens. Mais c'est vrai que sur le plan économique, on n'est pas brillant en France, on a raté un peu le coche. Ensuite, moi je dirais une chose, parce que je ne vais pas vous encombrer de chiffres, mais l'investissement qui est annoncé, vous savez, dans le cadre du plan d'énergie renouvelable, il est énorme. Je lisais le rapport de la Cour des comptes, c'est 2 milliards par an pendant 20 ans, ça fait 40 milliards. C'est vrai que ça peut financer du nucléaire. Mais pourquoi la France veut investir autant? C'est parce que là, on parle de offshore. C'est-à-dire, elles coûtent beaucoup plus cher, les éoliennes au large, dans la mer. Elles demandent plus d'entretien. Ça coûte cher, la maintenance. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai investissement. Et puis, on est en retard en France. Aujourd'hui, on a très peu d'éoliennes marines. Les seules qui existent, elles viennent juste d'être inaugurées aujourd'hui au large de Saint-Nazaire. Donc, c'est vraiment très, très peu. Vous en avez 80. Alors que dans le reste de l'Europe, vous avez 6000 éoliennes. Alors ceux qui disent ça sert à rien, ça tourne pas, ça produit pas suffisamment, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que souvent le vent tourne pas à la même puissance tout le temps. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante que j'ai retrouvée ce matin, Copernicus, qui s'inquiète parce que les vents en Europe sont en train de faiblir. C'est inimaginable, mais c'est vrai. Les vents ont chuté de 10% en Europe de l'Est et dans le sud de la France. Alors là, peut-être à Saint-Nazaire, c'est pas le cas, mais on sent quand même qu'il y a une baisse de vent. Et il faut énormément de vent pour que ce soit rentable, une éolienne. Il faudrait que ça souffle à 70-80 à l'heure en permanence, ce qui ne sera jamais le cas. Et l'équivalent, si vous voulez, pour cette même puissance, c'est quelques litres de pétrole pour produire la même énergie. C'est ce que je retiens de ce que dit Jean-Marc Jancovici, qui est un expert, vous savez, en énergie. Alors, les détracteurs disent, ça coûte cher, c'est pas rentable, en plus ça pollue. Pollue, non, c'est faux, parce que maintenant, les nouvelles pales sont recyclables. Ensuite, je termine par là, c'est un gros investissement, mais combien a coûté le nucléaire? Vous savez, souvent, on compare le prix du mégawatt nucléaire au prix du mégawatt solaire. On s'aperçoit que c'est très cher si vous tenez compte des investissements. Mais si vous retirez les investissements qui ont été faits à l'époque par l'État et EDF, c'est vrai que le prix du nucléaire mégawatt n'est pas cher du tout. Donc moi, je dirais, il faut séparer l'investissement de base. C'est comme pour le TGV. Quand vous avez construit le TGV, vous en parliez, ça a coûté une fortune. Bah, maintenant, on a quand même des billets de train qui sont à peu près, disons, raisonnables.
Ça se discute sur le TGV.
Vous m'avez presque convaincu.
Il y a du plus et du moins, c'est vrai, je suis désolé.
Au contraire, ne vous excusez pas.
C'est tout pas négatif, en tout cas.
Vous avez entièrement. Mais c'est pas.
Alors,
beau.
Juste un petit point, si vous me permettiez, quand on dit c'est pas beau. Moi, je suis pas d'accord. Quand vous avez en face de chez vous des pylônes en béton, actuellement EDF est en train de remplacer les pylônes électriques. Ils sont de plus en plus gros.
Je sais parce qu'on s'est croisé dans un train. Je vais pas dire quelle destination, mais je suis sûre que quand vous levez la tête et que vous voyez dans ces beaux paysages ces sortes comme ça avec ces bras comme ça de ces éoliennes, vous pouvez pas aimer ça.
Non.
Sans compter que même la nuit ça clignote en dernier aéroport.
Bon, on se retrouvera dans le train pour en parler. Merci Eric. Une courte pause et on se retrouve. Beaucoup de sujets. On va revenir sur la Russie. Et sans transition avec le vent, les éoliennes, les girouettes, on va parler de la France insoumise, la NUPES qui se dit désormais. A tout de suite. Nouveau débat dans quelques instants, mais tout d'abord le rappel des titres, Audrey Berthaud.
un trafic de médicaments démantelé en région Rhône-Alpes. Une dizaine de personnes ont été placées en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'obtention frauduleuse de médicaments et à leur revente en toute illégalité. Les médicaments étaient obtenus dans différentes pharmacies avec des ordonnances volées ou falsifiées. L'indemnisation des pompiers volontaires sera augmentée. Une hausse réclamée par les soldats du feu, particulièrement sollicités cet été sur les incendies de forêt. L'indemnisation de base va augmenter d'environ 3,5% et entrera en vigueur en octobre. Au 31 décembre 2020, on dénombrait en France 197 000 pompiers volontaires. Enfin, Federer disputera demain le dernier match de sa carrière. Il jouera en double avec Nadal à la Lever Cup à Londres. Un moment historique et inoubliable pour Rafael Nadal, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem. Roger Federer jouera contre les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe avant de mettre donc un terme à sa prestigieuse carrière.
Voilà, alors un autre match, ils sont nombreux les matchs en ce moment à l'intérieur de la France insoumise. Alors vous savez, il y a eu l'affaire Quatennens, il y a le cas Bayou. On a presque envie de dire à qui le tour, mais enfin quand même, comme ce sont des sujets importants, on ne va pas plaisanter sur cela. Alors Jean-Luc Mélenchon a réagi tout à l'heure, c'était lors des journées parlementaires de la France insoumise, mais pour ne pas dire grand-chose, il reste droit dans ses bottes. Alors que vous savez que ça tangue beaucoup. D'ailleurs, peut-être qu'on peut regarder un extrait hier de Mathilde Panot. On est beaucoup revenu sur la gêne à l'intérieur de ce parti de la France insoumise. Ils ont du mal à s'opposer à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui, vous le rappelle, je vous le rappelle, n'a pas eu un mot pour la femme d'Adrien Quatennens quand il a soutenu directement le député Quatennens. Écoutons Mathilde Panot hier.
Que celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui ont eu comme ministre M. Abad, M. Darmanin, d'abord nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société, il y a des violences sexuelles et sexistes faites contre les femmes, eh bien, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis.
Alors, ce qui m'intéresse, c'est que la France insoumise, aux surprises, ne veut pas de la démission d'Adrien Quatennens. Faut-il rappeler, Paul Melun, que ce sont les mêmes, à peine il n'y aurait même pas un soupçon, un début d'un bien soupçon, sûr. Qui ont demandé d'ailleurs très souvent la tête de, la démission de.
Oui, non, mais de Damien Abad et tous les autres. Enfin, on se demande là vraiment s'ils sont dans une dimension parallèle, les insoumis. Hein, ça fait quelques jours, vous voyez, il y avait une déclaration d'Olivier Faure qui était stupéfiante il y a quelques heures, où il se posait les questions du contexte dans lequel ça s'était passé avec Adrien Quatennens. Il y aurait des contextes où on pourrait mettre une gifle à son épouse, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça la gauche contemporaine aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'il y a une espèce de « faites ce que je dis et pas ce que je fais » à la France insoumise, qui est quand même là criant. Depuis quelques jours, les cadres, les caciques de la France insoumise sont très très mal à l'aise avec cette affaire et ils mettent quand même un certain temps à réagir, ils ne savent pas trop, ils tâtonnent, alors même que les mêmes insoumis, s'ils étaient les opposants politiques des autres insoumis, seraient déjà en train de nous faire des manifestations, d'appeler à un MeToo sur les réseaux sociaux, seraient devant les portes de je ne sais quel bureau en train d'hurler. Et là, si vous voulez, vu que ça touche à leur propre maison et que ça s'enchaîne quand même beaucoup, parce qu'il y a eu M. Boif, il y a eu M. Coquerel, maintenant il y a M. Quatennens, maintenant il y a M. Bayou. Alors moi, j'observe la présomption d'innocence pour tout le monde, à la différence d'eux. Mais en revanche, eux ne l'observent pas. Et eux, leur leitmotiv, c'est de dire « on vous croit ». Et on vous croit, ça, c'est une phrase, un slogan qui signifie on croit les femmes, quel que soit ce qu'elles disent, tout le temps, et au mépris de la justice. Donc là, a priori, c'est à taux variable cette affaire, parce que ça ne marche pas quand il s'agit d'un protégé de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Là, protection
mais
générale.
Très sincèrement, est-ce qu'il pourra rester député dans l'hémicycle avec tout ce qui est en train de se passer? La question, la France insoumise ne veut pas de sa démission, mais
avec un gros sparadrap sur la bouche.
Qu'a demandé Sandrine
Rousseau. Il a le droit d'y aller, mais il parle pas.
Voilà, c'est-à-dire que
c'est un contresens.
Il est muselé. Donc, si vous voulez, la section,
on ne peut pas demander un représentant.
À quoi sert un député s'il va dans le
sens? C'est la première question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un représentant du peuple d'être à l'Assemblée, qui doit porter la parole du peuple et se taire, parce que ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est ou bien il prend ses distances, ou s'il est assemblé, il doit faire son travail de député et parler. Je crois qu'effectivement, d'ailleurs moi j'ai été étonné parce que je crois que c'est Éric Zemmour que j'ai entendu ce matin dire mais ça c'est une affaire privée, c'est une affaire personnelle, c'est la justice qui doit le trancher. Bon, c'était le point de vue d'Éric Zemmour, ça lui appartient. Moi je suis assez en désaccord avec
c'est
cette vision des choses.
De
parce
fait.
Que forcément quand on est engagé dans un combat politique et surtout qu'ils sont extrêmement véhément et a raison à bien des égards sur la protection des femmes, on ne peut pas soi-même se comporter de la sorte parce que ça devient automatiquement une affaire politique. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas juste dire ben, la loi tranchera, on verra s'il a raison, s'il a tort. Quant à la présomption d'innocence, elle est malmenée quand on se déclare soi-même coupable. C'est-à-dire oui, que
lui-même. Donc la question. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il faut attendre que la justice fasse son travail?
Non, mais il y a le temps politique et le temps de la justice.
Non, mais vous
le
savez qu'il n'existe pas.
Non, mais le temps politique.
Et le temps médiatique a tout balayé.
Il y a le temps politique. Donc, le temps politique, c'est une décision politique qui doit être prise collectivement. Voilà, on ne peut pas dire ou bien lui se retire de son propre gré ou la décision d'être collective. C'est la LFI qui doit le trancher. Et puis après, effectivement, il y a le temps de la justice qui sera plus long, forcément.
Mais là, il y a une contradiction intrinsèque parce que d'abord, la matrice idéologique de la France insoumise met en avant, justement, systématiquement. La cause des femmes, et de façon juste parfois, et aussi de façon excessive. Et le problème de la France insoumise, c'est que fait ce que je dis, fait pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre évident entre le comportement de ses dirigeants et ce qu'ils professent. Souvenez-vous de la justification. Vous avez évoqué l'affaire Tahavouaf tout à l'heure. La justification de Clémentine Autain à l'époque.
Accusation
alambiquée, essayant d'expliquer, de justifier l'injustifiable. Là, c'est pareil. Alors que en revanche, dès qu'il s'agit d'un parti adverse, on a évoqué le cas de Damien Abad, là, tout à coup, c'est à boulet rouge et la personne doit être pulvérisée immédiatement. Donc là, il y a un vrai problème intrinsèque, c'est, j'ai envie de dire, à la France insoumise, lavez votre linge sale et arrivez propre.
L'affaire Abad, il y avait la présomption d'innocence qui était possible. L'affaire Quatennens, il a voulu même avoir été violent
avec son épouse. Si vous parlez de l'affaire Abad, rappelons qu'il y avait eu des élections juste après et il a été élu au Lorrain.
Il a été réélu, mais
il est parti. Donc le député Quatennens...
Ça lui a coûté son poste.
Ça lui coûte pas son poste. A gardé la confiance des électeurs. Alors pourquoi
alors, ça veut dire que si Damien Abad avait été à la France insoumise, il serait resté élu de la France insoumise. Or là, c'est complètement aberrant.
Non, mais il y a quelque chose, c'est que, et je pense que effectivement, les violences sexistes, elles ne sont pas de droite.
Bien sûr.
Parce que en fait, ce qu'on est en train de se dire là, c'est qu'effectivement, elle traverse toute la société. Et là, on a eu, vous le disiez, Tahavouaf, on a eu Éric Coquerel, on a aujourd'hui Quatennens. Alors effectivement, ça tangue dans le bateau, parce que on se dit, mais alors, voilà, nous aussi, nous sommes en première ligne. Et ouais, cette idée, parce que vous avez vu ce qu'a dit Mélenchon, la police, la presse, dénoncer la, c'est ça qui est plus que maladroit. Je pense que ça participe à un moment donné.
Il arrive même à dénoncer
une forme de sectarisme, c'est-à-dire que il dénonce d'abord la police et les médias, etc., avant. L'acte lui-même.
Bah, c'est donc, pas la police qui a donné une gifle à Mme Quatennens. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc là, effectivement, c'est perçu. Et vous savez que je pense qu'au sein même, là, aujourd'hui, de la LFI, les désaccords sont profonds. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que tout le monde fait corps derrière Quatennens.
Personne ne le croit.
Non, voilà, loin s'en fout.
Là, pour le coup, on le voit bien.
Mais tous les dissidents de la ligne ultra-wokiste, ultra-féministe, incarnée d'un côté par Panot chez LFI et Sandrine Rousseau chez Les Verts, pour l'instant, n'osent pas s'exprimer. Ils sont extrêmement sous les radars. En fait, ils ont dégoupillé, pour reprendre...
Ça ne fait pas quoi dire. On a vu le malaise, la gênance.
Pour reprendre des termes de guerre, ils ont dégoupillé une grenade et c'est en fait une bombe à fragmentation qu'ils ont lancée et qui n'est pas prête de s'arrêter.
Est-ce qu'elle va aller jusqu'à la statue du commandeur, si je puis dire, Jean-Luc Mélenchon?
Mais il faudrait être naïf pour penser que c'est que la cause des femmes qui est la raison de tout ce qui est en train de se passer à la NUPES. Ça n'est le prétexte, mais avant tout, il y a des luttes d'intérêts politiques et de prise de pouvoir qui sont en train de se préparer pour succéder à Jean-Luc Mélenchon d'un côté et pour chez Les Verts prendre le pouvoir parce qu'il y a des élections qui vont arriver dans quelques mois chez Les Verts et Sandrine Rousseau elle est en train de faire le désert autour d'elle pour prendre le pouvoir.
Il faudra voir ce qu'il en est.
On sait qu'il y a un enjeu tout simplement politicien et qui est en train de se jouer là sous
la Russie. Je voudrais y revenir sur la situation économique, c'est très important. Écoutons Emmanuel Macron qui appelle, alors là, d'un point de vue militaire et géopolitique, surtout à faire pression sur Vladimir Poutine.
Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du premier ministre indien. Et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux.
Bien. Voilà, sur le front militaire et géopolitique, sur le front économique. Qu'en est-il ? Quelle est la réalité, Régis Sommier, de la situation économique de la Russie ?
Moi, je retiens de ce que dit Emmanuel Macron la fin de sa phrase, pour que nous puissions être de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux. Ça veut dire que quand il parle des prises de position de l'Inde et de la Chine, il se place sur le fait qu'elles ont peut-être évolué légèrement. Il y a eu effectivement une demande de la part du Premier ministre Modi et de Xi Jinping d'un arrêt de la guerre. Mais enfin, tout ça, finalement, n'est que quelques déclarations qui finalement permet à la Chine et à l'Inde de continuer à commercer, parce que c'est de l'intérêt géostratégique, mais c'est surtout de l'intérêt économique. Et c'est pour ça que c'est important d'évoquer cette question sur la Russie. De ce que j'ai vu de la Russie, les sanctions marcheront quand il y aura des queues devant les magasins. Les sanctions marcheront quand les Russes arrêteront d'utiliser leur voiture, quand les Russes arrêteront d'utiliser l'avion, quand ils auront vraiment des problèmes de pénurie qui peuvent exister sur les zones de front, mais ça, c'est la question de la guerre, mais qui n'existe pas en Russie. Si vous voulez, la guerre, elle n'est pas sensible en Russie. Elle n'est pas sensible. Il y a des colonnes de camions avec le Z qui arrivent dans la région. Vous les trouvez dans les régions de l'ouest de la Russie, mais vous ne les avez pas du côté de Moscou. Vous pouvez regarder la population vivre. Elle vit exactement comme elle vivait avant le 24 février. Donc il n'y a pas aujourd'hui, et je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais revenir sur ce point, sur la question de l'approvisionnement, sur le fait que les marques chinoises sont là, sur le fait que les marques coréennes, Samsung, sont toujours distribuées, et que ces marques-là vont prendre la place tout simplement des marques qui étaient les nôtres et qui ont disparu. Et en plus, le management local a souvent racheté les marques européennes, et il y a d'autres marques qui permettent de distribuer des produits sous une enseigne russe. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la Russie compense une partie des sanctions, elle compense aussi grâce à la puissance de son rouble, les importations, évidemment, ça lui rapporte plus. Donc il y a une forme d'équilibre qui fait que le consommateur, pour le moment, ne sent pas, au niveau de son porte-monnaie, de changement. Et en plus, je rajouterais que par rapport à la question de l'essence, ce qui est crucial chez nous, la question du gaz, mais je vais juste prendre la question de l'essence, parce que je ne vais pas aller voir quelle était la consommation de gaz, mais la Russie étant le principal producteur mondial, on peut se douter qu'il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là, mais l'essence en Russie est payée presque deux fois moins cher que chez nous. Donc voilà où est l'effectivité des sanctions. On nous avait dit, je vous signale, le 24 février, vous verrez, dans six mois, ils vont être à genoux. Comment Bruno Le Maire parlait de guerre économique, il avait utilisé ce terme. Aujourd'hui, on nous dit, attention, mais ça sera courant 2023, à la fin de l'année, peut-être, etc. Moi, ce que je vois se redessiner, c'est un axe, je vais le répéter, Moscou, Istanbul, Dubaï. Énorme de sociétés sont en train d'ouvrir des franchises à Dubaï pour pouvoir continuer à commercer avec la Russie. Istanbul, la compagnie Turkish Airlines, tout simplement, a repris totalement l'activité lien avec l'Europe. Vous passez par Istanbul, c'est en train de devenir la plaque tournante. Vous avez deux plaques tournantes dans le monde, dans l'aéronautique aujourd'hui, c'est Istanbul et Dubaï. Voilà. Et donc aujourd'hui, le monde russe est en train de se reprogrammer autour de ça. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, je veux bien que des sanctions, et qu'on en rajoute, d'abord, souvenez-vous de Cuba, hein, qui est sous sanction depuis 1959, Cuba existe toujours, et voilà. Donc les sanctions, ça n'a jamais rien changé. Par contre, ça peut affecter le moral de la population, ça peut regardez la Syrie, où les gens crèvent de faim, où il y a le choléra. En Russie, on en est loin, on est dans un monde qui, pour le moment, n'est pas, semble-t-il, affecté. En tout cas, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Il y a quelques marques qui ont disparu, et c'est tout.
Bon, merci Régis, merci à tous. Il nous reste quelques minutes, je voudrais insister sur cela, parce qu'on a beaucoup parlé d'un crime d'honneur. C'est le meurtre de Julien Videlaine. Ce sont 30 ans qui ont été requis contre Muhittin Ulug, et cet homme n'a pas supporté, on n'a pas les mots, la vision de sa fille avec un homme. Certains parlent d'un crime d'honneur, mais enfin, c'est un crime de déshonneur ou d'horreur. Oui. Le procureur a donc demandé la peine maximum. Nous sommes avec Noémie Schultz. Et le procureur a parlé d'un crime terrible, d'une scène, Noémie, il faut quand même rappeler, avec 19 coups de couteau. C'est de cela dont on parle.
Oui, l'avocat général qui a terminé ses réquisitions par ces mots, je n'ai pas trouvé de raison de requérir autre chose que la peine maximale, 30 ans de prison. Hein, l'avocat général qui avait pris le temps pendant une heure d'apporter la démonstration de la culpabilité de Muhittine Ulug. Effectivement, il a évoqué, vous l'avez dit, l'horreur de la scène. Même les policiers aguerris qui sont arrivés sur place le jour des faits ont été horrifiés par la quantité de sang qui s'était déversé, le sang de Julien Videlaine sur le sol. Il est revenu, il a interrogé longuement les raisons de ce crime, l'avocat général. Il a balayé toutes les explications très peu crédibles qu'a pu apporter l'accusé pendant l'instruction et même pendant le procès. La seule raison, a insisté l'avocat général, c'est la découverte de sa fille nue avec un jeune homme. Muhittine Ulug a répété à l'audience avoir perdu la raison, mais son discernement, insiste l'avocat général, n'a jamais été aboli. Les experts psychiatres ont dit il s'est attardé, et c'est intéressant, sur la question du poids de la tradition de l'héritage culturel chez cet homme d'origine kurde. Il n'y a aucune fatalité, aucune raison que les Kurdes restent arc-boutés sur des traditions ancestrales. Personne n'a forcé Muhittine Ulug à porter 19 coups de couteau à Julien Videlaine. Et ce qu'il faut comprendre à travers les réquisitions de l'avocat général, c'est que ce qui s'est passé est la faute d'un seul homme et que ça n'est en aucun cas la faute de la communauté kurde. Et il a insisté d'ailleurs sur les risques de troubles à l'ordre social, sur les risques qu'il faisait peser sur sa communauté en ayant agi comme il avait agi. Il a évoqué bien sûr les victimes, Julien Videlaine, mais aussi Nesrin, sa propre fille, ostracisée, coupée depuis les faits de sa famille, qui a perdu ce jour-là son père, son petit ami. Pour toutes ces raisons, il a requis donc cette peine très lourde, 30 ans de réclusion.
Merci beaucoup. Merci Noémie, depuis la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Voilà. Crime, oui, c'est vrai, d'honneur, de déshonneur. Déshonneur. Et de l'horreur. Hein.
Et de l'horreur. Effectivement, j'ai beaucoup d'amis kurdes qui ont été choqués par ce crime. Il ne faut pas mélanger, mettre tous les Kurdes dans ce panier. Mais en revanche, voilà, on est en France. On est en France. Vous avez un homme qui vit en France, qui, l'arbre de 16 coups, 19 coups de couteau, une pauvre fille qui veut vivre librement. Ah, c'est pas cette France-là dont on veut.
La famille de ce évidemment jeune homme qui est mort est détruite. Et cette fille qui a perdu son petit ami et désormais son père.
Il a fallu attendre 8 ans pour avoir le procès. Ça aussi, je trouve ça très choquant.
Ben, on va continuer à suivre parce que pour l'instant, ce sont les réquisitions. Merci. Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir. Merci Régis Le Sommier d'être venu juste après être revenu du terrain, comme on dit. Bel après-midi. Évidemment, restez sur CNews, on l'espère.